le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à tous. Voici les titres du MAGUN de ce dimanche. Le déploiement de la brigade d'intervention dans l'est de la RDC, c'est pour bientôt. Le général Babacar Gaye, conseiller militaire du secrétaire général de l'ONU, l'a déclaré à l'issue d'une mission dans la région des Grands Lacs. Il sera notre invité dans cette édition. Le programme MIDA Grand Lac arrive à son terme. Le bilan de ces 12 ans a été présenté jeudi dernier à Kinshasa. Ce sont des coordinations nationales du Burundi, du Rwanda et de la RDC, les trois pays ciblés par le programme, qui reprennent le flambeau. Les détails dans un instant. Enfin, le gouvernement sud-coréen compte financer le secteur de l'enseignement professionnel en RDC à travers le projet BEAR, un projet conçu et piloté par l'UNESCO. Dans ce magazine, Meïssa Diop, chargée du bureau de l'UNESCO en RDC, nous en dira davantage dans la rubrique décryptage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et le comité de pilotage ont clôturé jeudi dernier à Kinshasa le programme MIDA Grand Lac au cours d'une cérémonie en présence du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et des représentants des institutions partenaires tant privées que publiques. Cette clôture coïncide avec celle de la quatrième phase du dit programme. C'était une occasion pour faire le bilan, discuter des acquis, partager les leçons pas apprises et les perspectives de ce programme. Jean-Pierre Elali Coco était sur place. Suivez son reportage.
La cérémonie de clôture du programme MIDA Grand Lac s'est déroulée au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Dans son allocution de circonstances, Madame Sabine Boulkent, coordonnatrice MIDA Grand Lac, a dit sa satisfaction face au succès récolté après 12 ans de partenariat dans le domaine de la santé, de l'éducation et du développement rural.
Et il est très important, et je pense que c'est ça l'essentiel message dont je me réjouis de le prononcer alors devant vous tous, c'est de dire que cela fait preuve aussi du succès du programme, que maintenant, après 12 ans, nous sommes en mesure de passer la relève, ou disons de passer le bâton, de passer la responsabilité à la structure nationale, à la cellule nationale MIDA qui gère ce programme et qui continuera à travailler dans ce sens au sein du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Et je suis certaine que cela se passera très très bien et en partenariat étroit avec l'OIM, ici représenté par le chef de mission en RDC.
Un succès corroboré, certes, par des résultats atteints.
Les autorités nationales, via les cellules MIDA, sont capables de gérer le programme de façon autonome avec le soutien de l'OIM. Le bureau de la cellule nationale est fonctionnel. Le ministère de tutelle contribue, selon la lettre d'entente, au fonctionnement de ce bureau. Il y a eu des formations sur le cycle de projet qui ont été réalisées et suivies par les cellules nationales. Les règles d'administration financière et des règles sur le suivi et évaluation des projets est complètement maîtrisée par les cellules nationales. Et la cellule nationale de la RDC supervise la gestion et le suivi des projets et effectue le suivi des experts pendant leur mission. Dans ce sens, nous pouvons vraiment dire que le résultat 1 a été atteint.
Cette cérémonie ne signe nullement les certificats de décès du programme. Au contraire, les cellules nationales du Rwanda, du Burundi et de la RDC prennent désormais le relais. Le coordonnateur national MIDA RDC, Baudouin Nyombe Kongoli, ne s'en cache pas. Il est conscient de l'immensité de la tâche et des défis à relever. C'est notamment la recherche des financements des projets.
Notre ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale nous encourage à doubler notre quête de financement auprès de bailleurs de fonds bilatéraux, internationaux et d'avoir des banques de données de projets pour concourir à tous les appels d'offres de projets qui, à travers toutes les institutions du monde. C'est ça notre défi. Et une fois que ce financement trouvé avec l'appui du gouvernement, qui nous soutient dans la prise en charge du fonctionnement de notre bureau et de nos salaires, nous pensons que ce défi sera relevé.
Créé en 2001 avec le financement du gouvernement belge, le programme MIDA Grand Lac cible trois pays, la RDC, le Rwanda et le Burundi. Ce projet a connu 4 phases d'exécution à ce jour. Il vise le renforcement des capacités des institutions locales de ces 3 pays grâce à la mobilisation des ressources des diasporas de la région des Grands Lacs installées en Europe.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
2 millions de dollars américains du gouvernement sud-coréen pour soutenir le secteur de l'enseignement professionnel en RDC, particulièrement les filières électricité et bâtiment, construction métallique, agriculture et vétérinaire. Cela dans le cadre du projet de l'UNESCO BEAR, Best Education for Africa's Rice en anglais, ce qui veut dire en français une meilleure éducation pour l'essor de l'Afrique. Nous recevons pour cela dans cette émission Meissa Diop, il est chargé de bureau à l'UNESCO RDC. Il décrypte pour vous le projet BEAR en répondant aux questions d'Honorémi Singa Kalala.
Monsieur El Hadj Meissa Diop, bonjour.
Bonjour monsieur.
Le gouvernement congolais et l'UNESCO ont lancé le projet BEAR en RDC, B-E-A-R. C'est quoi le projet BEAR?
L'UNESCO a entrepris, dans le cadre de son appui au développement des systèmes éducatifs, d'accompagner la République démocratique du Congo dans le développement global de son système éducatif, mais surtout dans le développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, compte tenu de la spécificité du pays, compte tenu de l'ampleur du chômage dans ce pays. Et c'est ça qui a poussé l'UNESCO en rapport avec ses partenaires, notamment la République de Corée du Sud, pour financer un important projet appelé Best Education for Africa's Rise, une meilleure éducation pour l'essor de l'Afrique. C'est un projet important qui vise à développer l'enseignement technique et la formation professionnelle dans le pays.
Concrètement, quelles vont être les activités de ce projet?
Le montant global du projet pour 3 ans et de 2 millions de dollars. Et ces 2 millions de dollars devraient aider à appuyer les stratégies de formation dans 2 établissements, l'ITF Bumbu et l'ITAV Sélé, avec des filières assez intéressantes qui permettront à l'issue de la formation à des jeunes de pouvoir acquérir un métier, mais de pouvoir aussi permettre à des non-scolarisés de pouvoir intégrer les structures de formation professionnelle, mais aussi permettre à des adultes qui aujourd'hui, du fait de leur niveau de compétence, ne peuvent pas gagner suffisamment leur vie à intégrer ces structures, à renforcer leurs capacités et ainsi donc à participer pleinement au développement du pays.
Bon, c'est-à-dire qu'en dehors de l'enseignement formel, il y aura des cours du soir. Comment ça va se passer pour les non-élèves?
Il y a une bonne tranche frange de la population qui exclut les systèmes classiques de formation. Parce que d'abord, on leur demande des prérequis. Souvent, pour beaucoup de structures, on demande qu'on ait un diplôme, un certain niveau pour les intégrer. Alors que la majorité de la population qui a besoin de formation n'a pas été à l'école pour la plupart ou est sortie de l'école très tôt. Alors, à ces cibles, on ne peut pas les abandonner. C'est pourquoi ce projet est novateur, parce que devant permettre d'identifier de nouvelles stratégies de formation axées sur les besoins spécifiques de ces populations et sur les besoins du milieu. À partir de ce moment, c'est sous de nouvelles stratégies, des séjours alternés en entreprise et en situation de formation, mais aussi des cours du soir, comme vous l'avez dit, entre quoi toute stratégie qui rompe avec les stratégies classiques qui veulent que les élèves fréquentent des classes et tout ça, parce que nous sommes ici dans une approche basée sur les besoins du milieu et basée sur les besoins des cibles.
Qu'est-ce qui justifie le choix de 2 écoles et seulement à Kinshasa?
C'est un projet d'abord pilote qui devrait normalement, à l'issue des 3 ans, après évaluation, s'étendre à d'autres établissements. Nous ne pouvons pas, à l'entrée, peut-être intervenir sur des zones qui peut-être ne présentent pas les spécificités que nous recherchions avec la coopération coréenne. C'est d'abord des structures qui existent. L'ITF Bumbu et l'ITAV Sélé déjà sont là. C'est vrai que nous allons apporter un complément d'équipement et de sécurité au niveau de ces établissements. Et nous ne sommes pas partis tout simplement de notre volonté de venir juste dire c'est Bumbu, c'est un Sélé. Non, nous sommes partis d'une évaluation ex ante qui nous a permis d'identifier ces établissements et de savoir que si on y apporte un complément, ces établissements pourraient déjà permettre d'avoir des stratégies de formation innovantes capables de développer l'enseignement technique et la formation professionnelle dans le pays.
Qu'est-ce qui va être fait après?
Normalement, après les 3 ans, nous avons un curriculum bien structuré, bien organisé, selon les cibles. Nous avons des stratégies de formation, nous avons des équipements, nous avons donc un ensemble d'acquis qui, normalement, devraient, s'ils sont évalués, nous permettre de dire que si nous devons aller ailleurs, voilà ce qu'il faut. Et là, ça permettra déjà au gouvernement d'avoir une stratégie de formation. Et donc de dire que dans le budget de l'État, voilà ce que nous allons mettre. Ensuite, nous, en termes de partenariat, nous allons aussi montrer cet exemple à travers le monde. Et les autres partenaires, au-delà de la coopération coréenne, pourront venir appuyer la République démocratique du Congo et aider à ce que ce modèle-là puisse vraiment essaimer à travers le pays et même à travers d'autres pays.
Il semble que ce projet a été conçu dans une vision sous-régionale.
Oui, oui, c'est pourquoi je disais que nous n'étions pas seuls. Et c'est ça d'ailleurs ce qui encourage aujourd'hui et ce qui motive. Nous sommes ensemble dans d'autres pays de la SADC. Et ces pays-là devraient aider avec ce qui se fait ici. Parce que nous n'allons pas fonctionner en vase clos. Il y aura, durant les 3 ans, des rencontres périodiques avec donc les pays de la SADC, avec des échanges d'expérience. J'entendais par exemple l'autre jour le consultant recruté par l'UNESCO dire aux 2 directeurs de Bumbu et de Séré que si vous avez l'occasion de visiter par exemple Luxembourg, avec des exemples de formation professionnelle que nous avons, avec les exemples qui peuvent être tirés des autres pays, nous aurons vraiment là des stratégies innovantes permettant vraiment de pousser la RDC dans de nouvelles dimensions en ce qui concerne la formation professionnelle et l'enseignement technique.
D'une manière sommaire et succincte, que vise ce projet-là?
Un projet comme ça ne peut être réellement compris par l'ensemble des acteurs et des bénéficiaires qu'après. Parce que c'est là où on pourra, avec l'évaluation, permettre de toucher du doigt les réalisations qui ont été opérées. Mais déjà dans le processus, on verra par exemple que ces 2 établissements vont complètement se transformer. Mais aussi on verra que ce seront des établissements intégrés dans leur milieu. Concrètement, d'abord, dans le processus, les établissements vont complètement changer en positif. Deuxièmement, le gouvernement congolais aura une stratégie innovante de formation professionnelle et d'enseignement technique. Et enfin, nous aurons des jeunes congolais, déjà qui étaient perdus pour l'éducation, mais aussi des adultes qui verront, avec leurs compétences renforcées, dans les différentes filières de la construction métallique, de l'agriculture, de l'électricité des bâtiments, vont voir qu'ils sont désormais capables de contribuer au développement du pays, mais aussi en gagnant honnêtement leur vie, et par conséquent donc en permettant au niveau économique congolais de pouvoir progresser.
Oui, par rapport à tous ces objectifs, qu'est-ce que l'UNESCO attend du gouvernement?
Ah, c'est là le point sur lequel je voudrais insister. Heureusement que les autorités congolaises sont engagées à nos côtés. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel nous a reçu la délégation, mais aussi a mobilisé toute son équipe, le secrétaire général, l'inspection générale, les 2 directeurs de Bumbu et Nsele, mais aussi le comité de pilotage sont mobilisés. Mais à côté de ça, nous voulons un accompagnement, un suivi permanent à côté du responsable de l'UNESCO pour que ces 2 projets-là atteignent le résultat. Parce qu'à l'arrivée, c'est le gouvernement congolais qui va en profiter.
Monsieur Meissa Diop, merci de votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie.
Nos nouvelles en bref à présent. Nous ouvrons cette rubrique avec le volet humanitaire. Environ 40 000 déplacés et leurs familles d'accueil ont pu bénéficier d'une foire aux vivres organisée par le PAM, le Programme Alimentaire Mondial. C'était la semaine dernière à Rubaya, dans le Massissi, dans la province du Nord Kivu. En fait, en partenariat avec l'ONG CARE International, le PAM a distribué des coupons alimentaires que les bénéficiaires ont échangés contre de la nourriture dans cette foire, organisée avec des commerçants venus de Sake, Massissi, Goma et Rubaya notamment. Le montant des coupons était de 36 $ américains par ménage. Développement, le pont Luila reliant le territoire de Kasongo à la ville de Kindu et Kalima, nous sommes ici en province du Maniema, est de nouveau opérationnel après sa réhabilitation grâce à un appui financier du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. De 32 mètres de longueur contre 6 mètres de largeur, ce pont en métal peut supporter jusqu'à 60 tonnes de charge. Il s'était écroulé depuis 2010. Le gouvernement de la province a inauguré l'ouvrage le 18 avril dernier, dont le coût total de réhabilitation était de $150 000 américains.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le déploiement de la brigade d'intervention de la MONUSCO chargée de traquer les groupes armés dans l'est de la RDC est imminent, avec des moyens d'action et une capacité de mobilité adéquate. Le général Babacar Gaye, conseiller militaire du secrétaire général des Nations Unies, l'a déclaré à Radio Okapi à l'issue d'une mission dans la sous-région des Grands Lacs. Dans un entretien avec Jean-Pierre Elali Coco, il évoque successivement le lieu du déploiement, la composition, les moyens d'action ainsi que les capacités de mobilité de cette brigade d'intervention. Suivez.
Général Babacar Gaye, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'achever à nouveau une mission en RDC. Quel bilan faites-vous, général, de cette visite?
Vous savez, je suis présent à Kinshasa, mais je suis en provenance de Dar es Salaam, en Tanzanie, oui, où j'ai pris part à une réunion des chefs d'état-major de la Conférence internationale des Grands Lacs et de la SADC. Et cette réunion fait suite à l'adoption de la résolution 2098 et au fond, elle s'inscrit dans une des prescriptions de la résolution qui consiste pour la MONUSCO à tenir l'Union africaine, la Conférence internationale des Grands Lacs et la SADC, les tenir informés de la situation sécuritaire à l'est du Congo. Donc j'ai pu exprimer à ces trois organisations, puisque l'Union africaine était représentée par le représentant spécial de Madame Zuma pour les Grands Lacs, l'ambassadeur Diarra, leur faire l'état de nos préparatifs pour la brigade d'intervention, pour son déploiement, et également répondre aux préoccupations de ces organisations régionales qui tiennent à rester très engagées dans ce processus. Alors, c'est à la suite de cela que je suis venu à Kinshasa, faire également le point avec l'état-major de la force sur les préparatifs, et rencontrer Monsieur le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, ainsi que le chef d'état-major général, le général Etoumba.
Vous parlez des préparatifs. Où en sommes-nous, général?
La brigade d'intervention, tout d'abord, fait l'objet d'un mandat. Donc, elle existe à la suite de cette résolution 2098. L'adoption de la résolution a été précédée d'énormément de travaux d'état-major pour d'abord contacter les futurs pays participant à cette brigade, et ensuite pour faire tout le travail opérationnel préparatoire. J'ai pu en informer la Conférence des Grands Lacs et également la SADC. Nous attendons de manière imminente le déploiement de ces bataillons, alors que les planifications d'opérations sont déjà en cours.
Où sera déployée cette brigade précisément?
Cette brigade aura son état-major de brigade déployé à Goma. Elle aura également ses bataillons centrés autour de Goma, dans la mesure où elle doit mener des actions de nature coercitive, dans un très bon rapport de force. Donc les bataillons sont en général dans la proximité de Goma, et c'est à partir de là qu'ils seront mis en œuvre pour leurs différentes opérations.
Une autre question générale, quelle est la composition de cette force pour l'instant?
Cette force est composée de pays provenant de la SADC, et ces pays ont également le soutien de la SADC. Il s'agit principalement du Malawi, de la République sud-africaine et de la Tanzanie. Ce sont ces trois pays qui vont composer la brigade d'intervention.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la date précise sur le déploiement effectif de cette brigade?
L'état-major de la brigade sera opérationnel dans les meilleurs délais. Les bataillons vont très rapidement être acheminés. L'objectif que nous poursuivons, c'est que cette brigade soit opérationnelle dans des délais qui constitueront pour les Nations Unies des précédents. Vous savez que les procédures habituelles des Nations Unies prennent du temps, tout simplement parce que les États membres ont des relations contractuelles avec les Nations Unies, et il faut que tous les problèmes administratifs soient bien réglés avant que le déploiement ne soit fait. Dans ce cas précis, tout ce qui pouvait être fait en amont de la résolution a été fait, et nous pensons que le déploiement va aller très vite.
Ça peut être dans un mois, deux mois, précisément?
Ici, je n'ai pas voulu donner une date précise, et si je vous ai dit que en général nos déploiements prennent du temps, mais que dans le cas précis nous avons pris toutes les dispositions pour les accélérer et que ça se fera dans les meilleurs délais, je vous donne simplement rendez-vous au moment où ça va se faire. À ce moment-là, vous pourrez connaître quels sont les délais que ça aura pris finalement par rapport à la résolution.
Et l'Afrique du Sud a annoncé aussi son intention de déployer 1000 hommes dans le cadre de cette brigade. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont annoncé les couleurs? Vous avez parlé de la Tanzanie, des pays de la SADC. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont accepté de donner leurs troupes à cette brigade d'intervention?
Non, l'état-major de la brigade, comme les forces composant la brigade, seront exclusivement constituées par ces trois États que je viens de citer.
On peut savoir les moyens d'action de cette brigade et même sa capacité de mobilité.
Cette brigade sera composée, comme d'ailleurs l'a indiqué la résolution 2098, de 3 bataillons d'infanterie disposant de moyens d'appui et de moyens de soutien. Parmi ces moyens d'appui figure de l'artillerie et parmi ces moyens d'appui figurent également les hélicoptères d'attaque qui sont déjà présents à Goma et qui seront renforcés ultérieurement. Parmi ces moyens de soutien figure bien sûr tout le soutien médical adéquat, mais également toute la mobilité aérienne dont dispose aujourd'hui la MONUSCO et qui sera à très court terme renforcée par des hélicoptères supplémentaires.
Les Nations Unies ont proposé même l'envoi des drones. Qu'en est-il ?
Alors, j'en viens à cela. Cela fait partie des moyens qui constituent un très grand précédent, ces engins non pilotés de surveillance, qui effectivement, dans le courant de ce second trimestre de l'année, vont être déployés dans le Kivu.
Général, que pensez-vous des déclarations comme celle de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui insiste sur l'option politique et diplomatique à côté de l'option militaire pour résoudre le conflit au nord du Kivu?
Oui, je pense que c'est tout à fait dans la ligne de ce qui a été convenu entre les États membres lorsqu'au tour du secrétaire général des Nations Unies et à son initiative, ils ont signé l'accord cadre qui comporte 11 États et 4 garants. Et bien évidemment, une paix durable dans la région du Kivu nécessite qu'il y ait des relations harmonieuses entre les États, nécessite absolument que les causes profondes des conflits soient réglées, mais nécessite également qu'il y ait des moyens de coercition. Les moyens de coercition ne sont pas seulement militaires, ils sont de nombreuses natures. Il faut qu'ils existent pour ramener à la raison ceux qui ne seraient pas tentés de choisir des solutions qui soient les solutions raisonnables. Mais vous avez parfaitement raison, il faut une approche globale de ce problème.
Dernière question, on a parlé de cette brigade qui pourra comprendre entre 2500 et 3000 hommes. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée précise sur le nombre?
L'effectif de la brigade est exactement de 3069.
Merci, général Babacar Gaye.
Je vous en prie.
La situation humanitaire et sécuritaire reste préoccupante au nord Kivu. Elle nécessite une action concertée de la communauté internationale. C'est ce qu'a déclaré mercredi dernier à Goma Nicolas Chapdelaine, diplomate canadien et membre du comité spécial de maintien de la paix de l'ONU, à l'issue d'une mission de 2 jours effectuée par ce comité spécial au nord Kivu. Le but de ce séjour était de se rendre compte du travail de la MONUSCO et des problèmes que connaît la population de cette province. Nicolas Chapdelaine indique toutefois qu'il y a encore de l'espoir pour l'avenir de la RDC, même si beaucoup de défis restent encore à relever. Il est au micro de Gisèle Cage.
Tous les membres de la délégation sont sortis avec à la fois beaucoup d'espoir pour le futur, mais néanmoins un état de la complexité des choses. Je pense que cette semaine passée ici au Congo va nous permettre de revenir à New York et de communiquer avec tous les membres du comité spécial sur le maintien de la paix et de leur expliquer la situation, les développements au niveau des Nations Unies. Pour le comité spécial, toute la question de la mise sur pied de la brigade d'intervention est un concept relativement nouveau pour les Nations Unies. Je pense que nous avons tous une vision claire qu'il faut que la mise en œuvre de cette nouvelle partie du mandat de la MONUSCO se passe dans les meilleures conditions. Je pense que cette visite a été véritablement bénéfique pour que l'on puisse donner un petit peu plus de compréhension à nos collègues et aux membres de la communauté internationale qui se préoccupent des questions de maintien de la paix et en particulier de l'avenir de la MONUSCO.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Robert Ndundula Galula, médecin de formation, né à Likasi, le Katanga. J'ai fait mes études primaires à la Gécamine, donc moi on peut m'appeler enfant Gécamine. J'ai connu le temps de la très très belle Gécamine. Après là, j'ai fait mes humanités au collège des frères Xavériens, à Likasi toujours, collège de Tazamie. J'ai fini là-bas en 84. Et puis de là, directement, je suis allé à l'université de Lubumbashi de 84 à 90, où je suis sorti médecin. Ça s'appelait docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Et après, j'ai commencé à travailler, mais j'ai interrompu à un moment pour faire mes études de santé publique et d'épidémiologie, comme je l'ai dit.
avec l'Université de Bordeaux. Bordeaux 2, c'est la France. Je travaille au sein de l'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Depuis bientôt 4 ans, pour l'instant, je suis le chef de bureau de l'UNICEF Bas-Congo. Pendant l'UNICEF, j'ai travaillé 5 ans à UNFPA. D'abord ici à Matadi, de 2004 à début 2007. Puis je suis parti à l'est du pays de 2007 à 2009 où j'étais en charge du VIH-Sida, appuyant la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu bien entendu. Mais avant ça, j'étais médecin chef de district, c'était à Mbujimayi, et puis médecin chef de zone pendant de longues années, et puis médecin directeur d'hôpital pendant de longues années. Mais j'ai été aussi enseignant quelque part. J'aime beaucoup lire, bien entendu. Maintenant, Internet commence à me voler mon temps, que je prenais à lire beaucoup de livres qui touchent surtout au développement. Et sur la télévision, je suis beaucoup focus sur les documentaires qui touchent à l'environnement surtout. J'aime bien les questions d'environnement. Bien entendu, les Saintes Écritures me prennent beaucoup de temps aussi. Je les lis beaucoup. Les projets d'avenir, j'aime beaucoup la République démocratique du Congo. C'est un pays vaste, avec beaucoup de défis, beaucoup de potentiel. C'est de contribuer quand même au développement de ce pays. Ben, moi, je suis déjà dans un bon agenda avec les droits des enfants. J'aime bien les enfants, beaucoup même. Tant qu'il y aura encore des enfants qui auront de la souffrance, des enfants qui meurent pour des causes évitables, c'est l'unique projet qui me tient à cœur et sur lequel je travaillerai encore des années et des années. Je ne sais pas si tu as déjà vu une maman qui meurt parce qu'elle veut mettre au monde. Et moi j'ai vu des mamans qui sont mortes devant moi pour des causes évitables. Honnêtement, c'est une douleur qu'on ne peut pas partager. J'aimerais bien travailler sur cet agenda-là aussi.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Je m'appelle Rochina, ressortissant du village de Rusambu, au Nord Kivu. Le village de Rusambu et celui de Bukibira sont menacés de famine par manque de semences. Que peuvent attendre les populations de ces deux villages de la part de la FAO?
Merci, Monsieur Rochina. Nous avons contacté pour vous par téléphone Guillaume Kaongoshi, consultant national de sécurité alimentaire à la FAO Goma. Guillaume, que répondez-vous donc à notre auditeur?
Merci, Monsieur Rochina, pour votre question. Je tiens à rappeler que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, est chef de file dans les efforts internationaux de lutte contre la faim. Elle intervient en faveur des groupes les plus vulnérables, en l'occurrence les personnes victimes de mouvements de population, les personnes vivant avec les VIH, les personnes victimes de violences sexuelles et aussi les ex-combattants. Elle leur fournit des intrants agricoles de base pour leur permettre de reprendre les activités socio-économiques en vue d'une production alimentaire et ou une réinsertion dans leur communauté. Les deux villages, Rusambu et Bukumbira dont tu parles, font partie de la zone de santé des Pinga, caractérisée par une insécurité alimentaire avec crise des moyens d'existence aiguë selon les analyses IPC de décembre 2012, donc la phase 3, qui est différente de la phase des famines, qui est la phase 5. Dans ces circonstances, par le mécanisme de réponse d'urgence globale, la FAO coordonne les activités de réponse, se basant sur l'analyse de besoins conduite par tous les membres du cluster sécurité alimentaire provincial à Goma et l'analyse de la réponse suivant la cartographie qui fait quoi où dans les zones en crise. C'est dans ce cadre qu'en mai 2012, la FAO, à travers son projet stock stratégique financé par le Pool Fund, a procédé au renforcement de capacité des animateurs locaux à Bouleoussa, groupement du Kobo, sur la production maraîchère en partenariat avec COPI et les ministères provincial de l'agriculture, pêche et élevage. La FAO intervient actuellement dans les territoires de Walikale, mais dans sa partie centrale qui boua sur l'axe Goma-Walikale et ne pourra pas couvrir tous les territoires à cause de moyens limités. Avec tous les membres du cluster, la FAO pourra diligenter une mission d'actualisation de besoins dans la zone et selon les principes du cluster sécurité alimentaire après la validation de l'alerte. En effet, la FAO demande que le gouvernement puisse garantir la protection des populations et qu'il s'investisse dans les actions plus durables de restauration des moyens d'existence. Je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capus.
À vos carnets, quelques dates à retenir. Le 25 avril est une journée mondiale du paludisme. En prélude de cette journée, le Front commun contre le paludisme et les volontaires des Nations Unies organisent le 24 avril un atelier en rapport avec la lutte contre cette maladie. Lieu de rendez-vous, Centre Bétani à Kinshasa-Gombe de 8h à 13h. Autre date à retenir, du 22 au 28 avril, toujours dans le domaine de la santé, les pays africains célèbrent la 3e semaine africaine de la vaccination, SAV, une initiative pilotée par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. Pendant 7 jours, il sera organisé une gamme d'activités, notamment des campagnes de vaccination de haut niveau, ainsi que des événements d'éducation publique et de partage d'informations. La cérémonie de lancement régionale sera organisée cette année à Kampala, en Ouganda. C'est la fin de cette édition du magazine des Nations Unies, un fruit de travail en équipe supervisé par Nicole Ngaka, Jean-Pierre Elali Coco l'a coordonné, Honoré Missenga était au reportage, Mila Kimwini vous l'a présenté avec l'assistance technique de Jean-Noël Mokondo Yogo. Vous pouvez réécouter cette émission tout à l'heure à 19h03, heure de Kinshasa, soit une heure de plus à Lubumbashi et dans tout l'est du pays. Une émission que vous pouvez également retrouver sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net. Vous avez des suggestions, des questions ou des remarques, postez un commentaire sur le site internet, appelez-nous au 082 30 76 630 ou encore envoyez-nous un mail à notre adresse magun@radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et excellente journée dominicale à tous.